L'émission Venez à Jésus vous est présentée par les partenaires du ministère Jésus pour tous. Nous vous souhaitons une très bonne écoute.
Bonjour à tous, je suis Raphaël Mambou, que Jésus vous bénisse, qui que vous soyez, où que vous soyez. Le nom de cette émission est Venez à Jésus. C'est une grâce, c'est un honneur, c'est un privilège de pouvoir vous retrouver encore aujourd'hui autour de la parole de Dieu pour partager quelques versets bibliques sur le thème la parabole du Samaritain. Et nous avons toujours avec nous Jonathan Junior Mambou. Bonjour frère.
Bonjour et bonjour à vous qui venez de nous rejoindre.
Avant d'aller plus loin, je voudrais vous inviter à baisser la tête dans la prière pour dédier le reste des temps éternels. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous voici devant toi pour entendre ta parole, pour entendre ton serviteur, pour entendre ton messager. Bénis le message. Bénis ces hommes et ces femmes qui vont nous écouter sur Radio FM, sur Radio Internet, sur les supports informatiques. Bénis chacun d'entre nous. Bénis ces partenaires qui nous soutiennent afin de diffuser ce message de l'Évangile. Seigneur, nous ne voulons pas entendre un homme, mais nous voulons entendre le Dieu vivant.
Amen.
Mais tu te sers des instruments qui sont les hommes. Alors permets que nous disparaissions, mais que toi tu paraisses et que tu parles à ton peuple.
Amen.
Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.
Amen.
La parabole du Samaritain. Je voudrais vous réinviter à lire encore dans Luc 10. Luc 10, à partir du verset 30. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Cet homme a quitté Jérusalem pensant qu'il trouverait une vie meilleure vers Jéricho. Jérusalem, c'est l'image, nous avons dit dans les émissions précédentes, c'est l'image du corps de Christ. Jérusalem, c'est l'image du royaume des cieux. Jérusalem, c'est l'image de la vie de Dieu. Cet homme décide de quitter la vie de Dieu, décide de quitter le corps de Christ, décide de quitter la présence de Dieu pour avoir une vie meilleure à Jérusalem. Mais malheureusement pour lui, il se retrouve entre des mains de brigands qui vont le dépouiller, qui vont le tabasser et qui vont le laisser endormi. Adam et Ève sont les premiers hommes qui ont quitté, je peux dire, cette Jérusalem céleste, qui ont quitté cette présence de Dieu. Ils ont quitté pourquoi ? Parce qu'ils se sont laissés attirer par le mensonge du diable. Satan les a dépouillés. Qu'est-ce que Satan a pris ? Satan a pris cette vie que Dieu avait déposée en eux. Et Satan y a déposé la mort. C'est vrai que Adam et Ève ont vécu, particulièrement Adam, a vécu plus de 900 ans. Mais qu'est-ce que 900 ans par rapport à ces milliards de centaines de milliards d'années que Dieu aurait voulu que Adam vive en bonne santé, prospère, protégé par Dieu, aimé par Dieu? Qu'est-ce que c'est que 900 ans? Mais malheureusement, il y a des hommes et des femmes qui continuent aujourd'hui à faire le chemin que Adam et Ève ont pris et ce monsieur dans la parabole du Samaritain. Il quitte Jérusalem, il quitte le jardin d'Éden, il quitte le royaume des cieux, il quitte le corps de Christ parce que Satan les a fait croire qu'il y a quelque chose de meilleur pour eux en dehors de Jérusalem. Nous avons dit que Jéricho est la ville qui est située au point le plus bas. Je crois que tu as parlé de 480 mètres en dessous du niveau de la mer. Jérusalem est forcément une ville, bon c'est vrai que peut-être j'ai pas les données, mais forcément Jérusalem est une ville qui est au-dessus de Jéricho, puisque Jéricho est la dernière ville en dessous du niveau de la mer. L'homme préfère quitter les choses célestes, préfère quitter les bonnes choses du ciel pour se retrouver que dans les choses du monde. Jonathan, qu'est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui? Qu'est-ce que le Seigneur t'a mis à cœur sur cette parabole?
Jéricho se situe à 384 mètres en dessous du niveau de la mer. Ça, c'est le niveau le plus bas. Et pourtant, on ne doit pas descendre en bas. Dieu nous recommande d'avoir les choses d'en haut. Colossiens chapitre 3. En fait, s'il y a aujourd'hui des gens qui habitent précisément là où se trouvait Jéricho. Je ne parle pas de Jéricho physique. En fait, on utilise ces éléments géographiques pour montrer que Dieu veut qu'on pense aux choses d'en haut.
Il se peut qu'il y aurait une exode, les gens quittent Jéricho.
Non.
C'est une image.
Colossiens chapitre 3, on lit le premier verset. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Oui.
Où Christ est assis à la droite de Dieu.
Donc Christ n'est pas en bas, il est en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ en Dieu. Donc on doit s'affectionner aux choses d'en haut et non descendre vers le bas, quitter Jérusalem vers Jéricho. Comme l'ont fait Adam et Ève qui étaient dans la présence de Dieu, en communion avec Dieu, mais ils ont choisi de désobéir à Dieu. Donc celui qui choisit de désobéir à Dieu juste pour satisfaire ses propres désirs, il quitte Jérusalem vers Jéricho. Genèse chapitre 3, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. En fait, pour lui, ce qui était précieux, c'était ce que Satan avait dit. En tout cas, Dieu sait que quand vous allez manger, vous serez comme lui. Bon, ça c'est précieux. Oui. En fait, ce qui est précieux, ce n'est pas ce que Satan dit. Ce qui est précieux, c'est ce que Dieu dit. C'est-à-dire, la parole de Dieu, c'est la chose la plus précieuse que Dieu ait donnée aux hommes.
Un homme a dit, tout ce qui brille n'est pas or.
Oui, et il a raison. Tout ce qui brille n'est pas or. Et d'ailleurs, la parole, quand on voit la Bible comme ça, à l'œil comme ça, il ne brille pas comme le diamant, comme l'or. Et pourtant, c'est ça la chose la plus précieuse. Dieu insiste, quand je vois les écrits de Salomon, il insiste pour attirer les hommes à pouvoir s'attacher à la parole parce que c'est plus précieux, c'est plus merveilleux. Dans Proverbe chapitre 3, je prends le verset 13 par exemple. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. La sagesse, c'est toujours la parole. Et l'homme qui possède l'intelligence. Ici, la sagesse et l'intelligence, c'est la parole. Vous pouvez lire ça dans Deutéronome 4, 6. C'est là qu'on explique, on présente la parole comme la sagesse des dieux, la parole comme l'intelligence des dieux. Car le gain qu'elle procure, c'est-à-dire la sagesse nous donne aussi un gain, les gains qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Tu vois?
Tout à fait.
Pour nous, nous nous battons pour avoir l'argent parce que pour nous, l'argent est précieux. Mais Dieu nous dit ici par l'entremise de Salomon que le gain que la parole donne est préférable à celui de l'argent.
Les bénéfices de la parole de Dieu. En fait, les bénéfices de la mise en pratique de la parole de Dieu.
Oui. Et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or.
Tout à fait.
Les guerres qui ont duré en Angola, mais c'est toujours à cause des diamants, à cause des richesses souterraines.
En fait, pourquoi tu vas seulement en Angola? Les guerres qu'il y a dans le monde.
Dans le monde.
C'est le pétrole, c'est l'or,
le
c'est
coltan,
l'argent, c'est l'uranium.
Beaucoup de
on
choses.
On s'entretue parce qu'on cherche les richesses de ce monde. Mais Dieu nous dit. La parole, la mise en pratique de la parole de Dieu est préférable à tous les gains de ce monde.
Le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Regardez le verset 15. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Pourquoi ? Parce que c'est ça la chose la plus précieuse. C'est ce que Dieu avait donné.
Les œuvres d'art.
Oui.
Les grosses voitures,
toutes ces choses
les
viennent
immeubles,
après.
Dieu dit, c'est bon ces choses.
Ce sont des objets de prix,
mais
la parole est plus précieuse.
Est plus précieuse que cela.
Tous ces objets. Et c'est ce que Dieu avait donné à Adam et Ève. Il leur a donné la parole, c'est-à-dire, vous allez tout faire, mais ne touchez pas. C'était ça la loi. C'était la chose précieuse qu'ils devaient garder. Mais pour Ève, à un moment donné, la chose précieuse, c'était ce que Satan avait dit. Satan nous pousse à faire aussi le mal. Notre corps nous pousse à faire ce qui est mal. Donc, ne faisons pas cette erreur, malheureusement. Tous nous sommes passés par cette erreur-là. Comme Ésaü.
Non, mais le plus dangereux, moi je dirais que le plus malheureux, ce n'est pas d'avoir commis des erreurs, mais c'est d'avoir la plus grande des erreurs que nous puissions faire. C'est une fois qu'on est éclairé par la vérité,
oui.
que l'on persévère dans les erreurs. C'est on ça. Vient te dire, et tu as vu peut-être dans la vie des autres, l'impudicité, l'homosexualité, le mensonge, bref, le péché est dangereux pour toi. Tu as vu ça, tu vois ça dans la vie des autres, la Bible te le dit, mais tu préfères écouter Satan qui dit, Satan te fait croire que c'est mieux le péché. Comment tu peux réussir? C'est parce qu'ils n'ont pas été intelligents. Parce que des fois, tu sais, je me pose toujours la question. Comment est-ce que certains présidents, certains grands hommes de ce monde, entrent dans des loges mystiques, dans des loges secrètes, leurs prédécesseurs qui ont occupé ces postes ont fait ça, se sont retrouvés éjectés, ont perdu leur pouvoir, ont perdu leur titre, sont morts à l'étranger, en dehors de leur pays. Mais toi, on vient te dire la même chose, d'entrer dans ces choses-là, et tu seras mieux que ton prédécesseur. Moi, j'appelle ça il faut être insensé. Parce que si mon prédécesseur, qui a fait peut-être 20, 30 ans, vous n'avez pas pu le protéger, vous n'avez pas pu le garder, jusqu'à sa mort, pourquoi est-ce que moi, vous me donnez des garanties que je peux rester à ce poste-là jusqu'à ma mort parce que je suis avec vous? Non, ça n'a pas de sens.
Et ça, c'est vrai. Pourquoi? Parce que jusqu'à ces jours, notre cœur, le cœur des hommes, les hommes choisissent autre chose qui devrait être pour eux la chose précieuse au lieu de choisir la parole.
Ils choisissent les choses de ce monde.
Voilà. Prenons le cas d'Ésaü, par exemple. Ésaü était l'aîné. C'était ça l'élément le plus précieux. Être aîné, c'était beaucoup. Parce qu'il allait hérité des bénédictions de son père. Et les bénédictions de son père faisaient allusion à tout ce que Dieu avait dit à Abraham. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. C'est ça. Après, Isaac a vécu la même promesse. Dieu lui a dit ça.
Tout à fait.
Mais quand Isaac a mis au monde ses deux enfants, ça devait retomber sur Ésaü. Ésaü connaissait cette histoire. Donc, il devait ipso facto s'attendre à une visitation du Seigneur, lui disant la même chose. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi, Ésaü, et à ta postérité. Mais Ésaü a méprisé le droit d'aînesse. Et Jacob connaissait la valeur
du droit d'aînesse.
Il savait que Dieu n'allait pas passer par lui, parce qu'il était le deuxième.
Il a vu que c'était sans valeur. Même.
Voilà. Il a présenté le mets, et Ésaü a choisi le mets comme l'élément le plus précieux. Et il a raté la bénédiction. Pourquoi? Parce que pour lui, ce qui était précieux, c'était le mets. Jérémie chapitre 15, verset 19. Dieu dit ceci à Jérémie qui se lamentait des souffrances. Je vais même commencer au verset 18. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse? Il dit ça à Dieu. Comment? Comme une eau dont on n'est pas sûr. Maintenant Dieu lui dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Dieu dit à Jérémie, si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu tiendras devant moi. Regardez ce qu'il lui dit encore. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Très important. Un enfant de Dieu qui est à Jérusalem doit apprendre à séparer ce qui est précieux de ce qui est vil.
De ce qui est sale, de ce qui est intolérable.
Ne pas être comme Ésaü, un profane. C'est à eux de revenir à toi. Là, c'est Dieu qui dit à Jérémie. C'est à eux de revenir à toi. Mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. C'est le monde qui doit laisser le monde pour venir à Jérusalem. Ce n'est
Et
pas
non,
à moi
de retourner au monde.
Non, c'est à eux. Regardez le verset 20. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. Ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer. Tu vois ce verset? C'est la conséquence de celui qui s'est séparé, ce qui est précieux, de ce qui est vil. Donc d'abord, quand tu commences à séparer ce qui est précieux de ce qui est vil, les guerres vont venir, ils vont te faire la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Et c'est vrai, ça s'est accompli parce que Jérémie a été combattu, mais il a été délivré de la main des méchants. Donc nous devons séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. Ça, c'est très important. Et en le faisant, nous ne commettrons pas des erreurs comme l'a commise aussi Abraham, notre père,
dans la foi.
Abraham, c'était un homme intègre. Mais un jour, Dieu lui dit ceci, dans Genèse chapitre 17, verset 20. Ça, c'est ce que Dieu va lui dire. Genèse chapitre 17, je lis le premier verset. Dieu lui dit ceci. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. » Maintenant, posons-nous la question, pourquoi Dieu lui dit « Sois intègre » ? Ça veut tout simplement dire qu'avant, il n'était pas vraiment intègre.
Il a pris à garde.
Oui. Et lisez ce texte, on est au chapitre 17. Mais au chapitre 16, il a pris Agar.
Il a pris Agar.
Il a suivi la voie de sa femme. Donc pour Dieu, ce n'était pas l'intégrité.
D'abord, il y a le fait qu'il a un peu faibli dans sa foi. Il a fui en Égypte. Oui. Il a menti que Sarah, ce n'était pas sa femme. Oui. Et puis, il est ressorti de l'Égypte avec des biens de l'Égypte. Et maintenant, quand il y a eu des problèmes de conception, il prend Agar, il fait un enfant. Et Dieu lui apparaît pour lui dire, marche devant ma face et sois un homme intègre.
Oui, l'intégrité a toujours des conséquences positives. Parce qu'en fait,
toujours, il faut insister sur ça,
oui,
toujours.
Ismaël n'est pas le fruit de l'intégrité. Mais l'intégrité, à partir du chapitre 17, a produit Isaac. Ça, c'est très important. Marche devant ma face et sois intègre. Dieu a vu qu'il n'était pas intègre. Maintenant, change. Sois intègre. Et ça a produit Isaac. Ça, c'est très important. Même quand on parle de Job, c'était un homme intègre, droit. Si je ne me trompe pas, on a commencé par ce mot-là.
Disons-le, comme ça.
Pour vérifier, pour le confirmer.
Job, c'est avant le livre des psaumes.
Ça a commencé par ça. Job, chapitre 1er. Il y avait dans le pays d'Ut un homme qui s'appelait Job, et cet homme était, premièrement,
intègre et droit.
Il craignait Dieu
et se détournait du mal.
C'est pour dire quoi? L'homme intègre. Il a la facilité de marcher dans la droiture et il a la facilité de marcher dans la crainte de Dieu. Parce qu'en fait, l'intégrité ne veut pas dire que tout homme intègre est un chrétien. Non. Il y a des païens qui sont intègres. Mais en tout cas, Dieu demande des chrétiens intègres. En fait, l'intégrité, c'est quoi? C'est une honnêteté stricte.
Sans réserve.
Voilà, une honnêteté scrupuleuse. Dieu nous appelle à ça. Et Job était comme ça. Riche, mais intègre.
Mais intègre. Ce qui est possible de dire,
oui,
qu'on peut être très riche et intègre.
Donc, c'est ce que Dieu demandait à Abraham, de rester intègre et de rester à Jérusalem. Parce que si on n'est pas intègre, on s'attire des problèmes. Comme les problèmes de nos bien-aimés Adam et Ève, nos ancêtres. Et ce qui leur est arrivé, c'est quoi? Quand ils ont désobéi, eh bien, il y a eu un problème. On est dans Genèse chapitre 3. Regardez déjà certains problèmes qui leur sont arrivés. On dit au verset 8, « Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'Éternel et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel au milieu des arbres du jardin. » En fait, d'abord, ils n'avaient pas l'habitude de se cacher. Mais là, ils se cachent Dieu.
Ils ont peur. Le péché a entraîné la peur.
Voilà. Mais l'Éternel dit, Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ? » Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Donc ça a créé en tout cas une tristesse déjà. Il y a déjà maintenant une vie où les gens commencent à se cacher. Parce qu'avant, l'homme ne se cachait pas.
Il ne se cachait pas.
Il ne se cachait pas, mais il y a eu directement comme un divorce. Parce qu'en fait, normalement comme ça, pour les hommes mariés, par exemple, mettons deux personnes qui se marient aujourd'hui. Quand ils vont passer leur nuit des noces et que l'un des partenaires dit non, pas aujourd'hui. Ok, ça va. Demain, pas aujourd'hui. Non, on ne peut pas faire notre relation intime. Non, non, non. Ça crée le divorce. Parce qu'en fait, finalement, on s'est marié, on va le faire.
Tout à fait.
Mais peut-être pour ceux qui ne le savent pas, les chrétiens sont les épouses de Christ. Et avec le Seigneur, nous devons passer notre intimité. C'est vrai, je ne vois pas l'intimité physique, mais je vois cette communion
avec lui.
Qui ne doit pas amener le chrétien à se cacher. Mais c'est ça ce qui est arrivé à Adam.
Ça a brisé leur intimité.
C'est ce qui arrive à tous les chrétiens. Lorsqu'on descend, en quittant Jérusalem vers Jéricho, il y a divorce. Divorce, pourquoi? Parce qu'on commence à se cacher. Et de l'autre côté, Dieu aussi réagit comme ça vis-à-vis de tous ceux qui s'éloignent de lui. Il se cache aussi. Regardez la Bible, lorsque Jésus était sur terre, il parlait en parabole.
Tout à fait.
Pourquoi il parlait en parabole? À cause de l'incrédulité des pharisiens. Il leur parle en parabole. Et un jour, les disciples disent, « Mais Seigneur, pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Il dit, « C'est parce que c'est à vous, les disciples, qu'a été donné de connaître les mystères du royaume des dieux. C'est important.
Donc, pour appuyer ce que tu dis, Deutéronome 29, verset 29, on dit ceci. Les choses cachées sont à l'Éternel. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à jamais, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Dieu possède les choses cachées, parce que justement, il n'y a plus d'intimité entre Dieu et sa créature à cause du péché. Dieu commence à se cacher. Dieu commence à cacher certaines choses. Et ceux qui sont ses enfants, les choses cachées, les choses qu'il cachait, il commence à les révéler. Ne peut connaître les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu les révèle aux enfants de Dieu qui ont l'Esprit de Dieu en eux.
Et ça, c'est important de ne pas oublier ça. Dieu a commencé à se cacher. Voilà pourquoi beaucoup de gens sont dans la même situation. Je cherche Dieu, je ne comprends pas. Dieu se cache. Et il y a même dans Marc où la Bible dit que Dieu parlait, Jésus parlait toujours en parabole, mais en particulier il disait tout à ses disciples.
Toujours tout à ses disciples.
Pourquoi pour un groupe il doit dire parler en parabole et pour les autres il doit aller cacher des choses?
Parce que justement,
ils étaient incrédules, ils persévéraient dans la désobéissance. Ils étaient prêts à lapider Jésus alors qu'il leur disait la vérité.
L'intimité brisée s'est révélée par l'incrédulité.
Oui.
Vous ne croyez plus. C'est plus nécessaire que je vous montre certaines choses.
Marc chapitre 4, verset 34. Il ne leur parlait point sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples.
Tout à fait.
Mais les autres, il leur explique rien. Mais seulement à ses disciples. Parce que le disciple, c'est celui qui demeure.
Qui le suit.
Oui.
Qui vit avec, qui est en fait en intimité. Qui demeure à Jérusalem, qui reste au jardin d'Éden, qui reste dans le corps de Christ, qui reste dans l'intimité avec Christ, c'est celui-là à qui Dieu fait connaître des vérités.
Jean chapitre 8, verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Oui, les disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité n'affranchit que celui qui demeure sous son abri. Regardez encore un autre élément qui est arrivé à Adam et Ève. C'est l'errance. Je prends Genèse chapitre 3, versets 12 à 14. Ça aussi c'est un élément important. Ici, Dieu bannit ces hommes qu'il a créés de sa présence. Il les bannit du jardin d'Éden, ils partent. Genèse chapitre 3, verset 22. L'Éternel dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden.
Pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris, c'est ainsi qu'il chassa Adam.
Le départ d'Adam et Ève du jardin d'Éden a créé l'errance. L'errance. Et c'est ce qui arrive à tous ceux qui quittent Jérusalem pour Jéricho. Ils errent ça et là. C'est comme ça. Et ça revient un peu dans la Bible, un peu partout. Prenons par exemple Ésaïe 53, verset 6. Regardez ce que la Bible dit ici. Ésaïe 53, verset 6, c'est ce chapitre qui parle aussi du Seigneur Jésus. Mais je prends juste le verset 6 qui parle de nous. Verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis. Tu vois, c'est ce que nous étions sans Christ. Nous étions errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Tel suivait la masturbation, l'autre suivait l'homosexualité, l'autre suivait la fornication,
le meurtre,
la pornographie, le meurtre,
la drogue, l'ivrognerie.
Voilà. Chacun suivait sa propre voie. L'errance. Et Dieu demande à ses enfants de retourner. Jérémie chapitre 50. On va atterrir là, pour ce point de l'errance. Jérémie 50, je prends le verset 3 et 7. Je lis la parole. Dieu dit ceci. Car une nation monte contre elle du septentrion. Elle réduit son pays au désert. Il n'y aura plus d'habitants, hommes et bêtes fuient sans vent. En ce jour, en ce temps-là, dit l'Éternel, les enfants d'Israël et les enfants de Juda reviendront ensemble. Ils marcheront en pleurant. Ils chercheront l'Éternel, leur Dieu. Ils s'informeront du chemin de Sion. Ils tourneront vers elle leur regard. Mon peuple, verset 6, était un troupeau de brebis perdus.
Vous voyez,
leur berger les égarait. Ça, c'est ce que nous étions. Prenez le dernier verset, le chapitre 31, le verset 22. Jérémie toujours. Il parle de la même chose, de l'errance. Chapitre 31, verset 22. Jusqu'à quand seras-tu errante, fille égarée? C'est comme ça que Dieu a appelé Israël et Juda. Jusqu'à quand seras-tu errante, fille égarée? Car l'Éternel crée une chose nouvelle sur la terre. Regardez cette chose nouvelle. La femme recherchera l'homme. Cette femme-là, c'est nous.
L'Église.
L'Église, nous étions à Jérusalem. On descend à Jéricho. Maintenant, Dieu fait une chose nouvelle. Il nous présente la parole. Il nous présente Jésus. Il dit, maintenant, la femme va chercher l'homme. C'est ce que Dieu nous demande. De ne pas être comme Adam et Ève qui ont choisi l'errance, mais de rechercher l'homme qui est l'Éternel. L'homme qui est Jésus-Christ de Nazareth.
Mon frère, ma sœur, pour finir, j'aimerais aller dans Proverbe 1, verset 10. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Ne soyons pas comme Adam et Ève, continuellement dans notre vie, qui ont préféré écouter la voix du diable plutôt que d'écouter la voix de Dieu. Les péchés que ça a entraîné, les conséquences du péché que ça a entraîné dans la vie et dans l'humanité sont désastreuses. Peut-être qu'à notre niveau, nous allons dire « Oh, c'est pas grave, c'est juste un petit vol, c'est pas grave, c'est juste un flirt, c'est pas grave, c'est juste une première fois que je vais coucher avec elle, c'est pas grave, c'est juste un premier avortement ». Oui, d'accord. Mais les conséquences que ça va emmener derrière sont incalculables. La Bible nous dit, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Mon frère, ma sœur, peut-être que vous avez déjà cédé, mais la bonne nouvelle est que Jésus-Christ est venu frapper à votre porte au travers de cette émission. Si vous écoutez cette émission, c'est pas le fruit du hasard. C'est Dieu qui vous parle et qui vous demande, revenez à Jérusalem. Revenez dans le jardin d'Éden. Revenez au royaume des cieux. Amen. Revenez. Revenez dans la présence de Dieu au travers de Jésus-Christ. Si c'est cela votre cas, je voudrais demander au frère Jonathan de vous conduire dans une prière de repentance et d'acceptation. Prions.
Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, j'ai écouté ta voix. À cause de ma désobéissance, j'ai été dans l'errance. Je viens à toi, Seigneur. Entre dans ma vie. Dirige ma vie. Sois le maître de ma vie. Merci, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu as écouté ma prière. Nous avons ainsi prié. Amen.
Si vous avez fait cette prière, croyez que vous avez entendu. Je suis Raphaël Marmou et le nom de cette émission est Venez à Jésus. Nous nous retrouvons la fois prochaine, toujours sur le même thème, avec Jonathan Junior Mambou sur la parabole du Samaritain. Que Jésus continue de vous bénir, que Jésus continue de vous garder à la fois prochaine.
À la fois prochaine et que Dieu vous aide à rester à Jérusalem.
Amen.
Amen.
L'émission Venez à Jésus vous a été présentée par les partenaires du ministère Jésus pour tous. Pour nous joindre, appelez-nous au plus 243 819 910 910 ou visitez notre site internet www.jesuspourtous.org.